Bienvenue à la saison 2, épisode 20 du podcast En contrôle de sa santé sur la bataille éternelle entre le chaud et le froid pour guérir votre douleur. Salut tout le monde, Dr. Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation pour que vous soyez mieux informé et en contrôle de votre santé. J'aide des patients à tous les jours à la clinique, en vidéoconférence, à travers des capsules YouTube et des podcasts. Et une problématique qui revient fréquemment, ce sont des personnes qui se demandent s'il serait plus préférable d'utiliser le froid ou le chaud pour ne pas empirer la situation. Vous êtes-vous déjà demandé si c'était mieux de mettre du chaud ou du froid sur votre douleur? Ou encore, si cette réponse va changer en fonction d'une douleur traumatique ou d'une douleur persistante chronique? Pour faire simple, ça n'a absolument aucune importance. Mais pour mieux comprendre pourquoi, il faut regarder ce que la science en pense, mais avant tout, il faut parler de l'inflammation. Parce que, oh boy, pour certaines personnes, si ça fait mal, ça doit être inflammé. Cet épisode est sponsorisé par le cerveau de la responsable en massothérapie à la clinique, qui reçoit constamment des questions en lien avec l'inflammation, le froid ou la chaleur pour contrôler les inconforts, la douleur et le cou ou le dos bloqué, et qui m'a suggéré de faire une capsule sur ces sujets. L'inflammation est un mot qui a le dos large. On le retrouve partout sur Internet, dans des blogs, des vidéos, et il est souvent maladroitement utilisé pour décrire une simple douleur. Parce que pour la plupart des gens, il est difficile de concevoir qu'on puisse ressentir une douleur sans qu'un nerf soit coincé, une vertèbre déplacée ou simplement inflammée. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, les trois plus grands mythes en matière de santé neuromusculo-squelettique, ce sont de croire que la douleur est due à une inflammation, une vertèbre de déplacée ou un nerf de coincé. Tout d'abord, quand une vertèbre est réellement déplacée, vous ne seriez pas en train de penser à aller chez le chiropraticien, mais plutôt à vous rendre aux urgences, incapable de bouger à la suite d'un événement traumatique majeur. Les mouvements maladroits, les faux mouvements, n'auront jamais la capacité de modifier l'anatomie de votre colonne vertébrale ou votre bassin. Sinon, nous verrions des athlètes se retrouver constamment paraplégiques après des collisions. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la colonne vertébrale est extrêmement solide et non fragile. Cependant, elle peut être plus sensible à travers les années si la sédentarité et la peur de l'activité physique ou du mouvement s'installent progressivement. Mais si le sujet vous intéresse, allez écouter l'épisode 3 de la saison 1 du 17 novembre 2023. Si vous souffrez d'un nerf coincé, vous ne ressentirez pas seulement que des douleurs localisées au cou, au dos, à l'omoplate ou encore à l'épaule. Vous allez éprouver également des douleurs diffuses dans le bras ou la jambe, ainsi que des déficits neurologiques importants, tels que la perte de réflexes, de sensations ou même l'incapacité d'utiliser le membre affecté. Ce niveau extrême de perte de fonction est généralement associé avec un degré élevé d'arthrose et de dégénérescence discale, souvent désigné sous le terme de la hernie vertébrale, pouvant comprimer les nerfs ou la moelle épinière. Mais si le sujet vous intéresse, allez écouter l'épisode 1 de la saison 1 du 1er novembre 2023. Cependant, pour la plupart des gens, il est possible d'avoir un faible niveau d'arthrose ou une hernie et de rester totalement asymptomatique, sans aucun symptôme, ne les découvrant que par hasard lors d'examens de routine ou de dépistage. Et si ces sujets vous intéressent, allez écouter l'épisode 3 de la saison 2 du 26 janvier 2024. En conclusion, il est crucial de comprendre que la douleur n'est pas toujours synonyme d'inflammation et vice-versa. Pour que votre corps déclenche des marqueurs inflammatoires et initie le processus de guérison, une composante anatomique doit être endommagée. Cependant, la plupart des épisodes de douleur au cou ou au dos sont non spécifiques. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune lésion anatomique identifiable, bien que la douleur soit réelle. Ce type de douleur est généralement le résultat d'une sensibilité articulaire ou musculaire provenant de votre cerveau, visant à motiver des actions préventives de votre part pour éviter des véritables blessures. Il est important de se rappeler que les inconforts et les douleurs sont principalement présents pour vous alerter qu'une certaine activité ou une posture n'est pas très bien tolérée, afin de prévenir les blessures. Mais si ce sujet vous intéresse, allez écouter l'épisode 11 de la saison 2 du 11 mars 2024. Depuis les premières civilisations, des témoignages attestent de la connaissance et de la gestion de l'inflammation. Les premiers écrits remontent à des papyrus égyptiens, mais aussi en Grèce et à Rome, avec des ouvrages qui ont été conservés, identifiant les quatre signes cardinaux de l'inflammation traditionnelle. Douleur, chaleur, rougeur, œdème et perte de fonctionnalité. Par la suite, en 1793, le chirurgien écossais John Hunter a souligné que l'inflammation n'est pas une maladie. Oh non, pas toi là. On va attendre que la grosse crise d'affaires passe. Ça, c'est la belle neige, tout le monde, qui est sortie depuis 2-3 jours. On n'est pas capable d'arriver au printemps. Pour ceux qui vont regarder le podcast par rapport, là, on est littéralement le 5 avril et il y a de la grosse tombée de neige au Québec. Et là, c'était la machine qui la ramasse, qui vient de passer littéralement en dessous de mon bureau. On recommence. Par la suite, en 1993, le chirurgien écossais John Hunter a souligné que l'inflammation n'était pas une maladie, mais une réponse non spécifique qui produit un effet curatif sur le corps. Par la suite, en 1793, un chirurgien écossais, John Hunter, a souligné que l'inflammation n'est pas une maladie, mais plutôt une réponse non spécifique qui produit un effet curatif sur le corps. Au fil du temps et à travers de nombreuses découvertes, ont mené à la création des premiers médicaments anti-inflammatoires. Vous comprendrez donc qu'au fil des années, le concept de l'inflammation a évolué, passant d'une maladie à une réaction normale du corps pour défendre l'organisme. Parce que oui, l'inflammation est nécessaire. L'inflammation est souvent perçue comme une réponse négative du corps. Cependant, sous une lumière scientifique, l'inflammation est considérée comme une réponse bénéfique et essentielle du système immunitaire pour guérir les blessures, en augmentant le flux sanguin, favorisant ainsi l'arrivée de cellules essentielles pour la réparation tissulaire. L'inflammation est souvent perçue comme un problème malgré ses bienfaits, principalement parce que son excès ou sa persistance peut causer des complications. Bien qu'une inflammation modérée soit bénéfique pour la guérison, un surplus peut entraîner des dommages tissulaires chroniques comme chez des personnes atteintes d'arthrite. En général, lorsque je mentionne des maladies chroniques, je fais référence à des affections auto-immunes où vos propres cellules attaquent votre corps, provoquant des dommages à long terme sur plusieurs composantes anatomiques. Et si je me concentre sur mon expertise neuromusculo-squelettique et ce qu'on peut voir en clinique, cela peut souvent être associé avec des conditions rhumatologiques telles que l'arthrite et la spondylarthrite ankylosante. Ces maladies peuvent progressivement endommager les articulations ou entraîner l'ossification des ligaments de la colonne vertébrale, rendant peu à peu le mouvement impossible. J'ai déjà fait une capsule sur le sujet de la spondylarthrite ankylosante et le chanteur d'Imagine Dragon qui a ce diagnostic, mais qui est uniquement disponible sur ma chaîne YouTube. Si le sujet vous intéresse, uniquement recherchez le chiropraticien spondylarthrite ankylosante dans la barre de recherche YouTube. Mais pour revenir à la question initiale que beaucoup de personnes se posent, comment savoir s'il faut contrôler l'inflammation avec de la glace et quand il serait préférable de relaxer les muscles en douleur avec la chaleur? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on doit se baser sur le consensus scientifique qui représente la meilleure compréhension actuelle sur un sujet donné. Cependant, il est important de noter que le consensus scientifique est en constante évolution, avec toute nouvelle découverte, perspective ou preuve émergente. La question du froid contre la chaleur dans la littérature scientifique est une bataille constante depuis de nombreuses années, et les conclusions qui en émergent sont souvent non satisfaisantes pour la majorité de la population qui préférerait un gagnant. Malheureusement, il semblerait que la chaleur ou le froid n'auraient pas la capacité d'influencer votre guérison, mais à la place, forcerait votre cerveau à gérer deux stimuli différents, soit la douleur et la sensation de froid ou de chaud, ce qui subjectivement diminuerait l'intensité de vos symptômes. Parfois, quand on ressent des douleurs ou des sensations de chaud et de froid, notre corps peut être un petit peu confus. Si une de ces sensations est très forte, elle peut prendre toute l'attention et faire disparaître les autres. C'est pourquoi il existe des patchs de chaud et de froid que l'on retrouve en pharmacie. Et quand nous mettons ces patchs, notre cerveau doit travailler plus fort pour comprendre les changements de température, ce qui pourrait aider à gérer la douleur en forçant votre cerveau à constamment évaluer le froid, le chaud et la douleur. Et une d'entre elles va prendre plus de place que la douleur. Finalement, le consensus scientifique du moment, c'est que la meilleure option serait celle qui vous fait le plus de bien. En anglais, on appelle ça « patient preference », ce qui correspond aux principes fondamentaux d'une bonne pratique clinique. Cela implique d'offrir des options thérapeutiques qui correspondent aux valeurs et préférences des patients, ainsi qu'aux réponses positives à des traitements similaires dans le passé. Il est important aussi de se rappeler que les options thérapeutiques passives, telles que l'application de la glace ou de chaleur, ne sont pas suffisantes pour résoudre efficacement une douleur neuromusculosquelettique. Ce qui aura le plus grand impact sur votre rétablissement, c'est de maintenir votre autonomie à la maison en restant actif dans la zone confort-inconfort tout en laissant votre douleur guider votre rééducation. Les patients qui dépassent mes prévisions cliniques, mes pronostics, sont ceux qui, malgré la douleur, continuent de vivre leur vie en ajustant temporairement les mouvements pour permettre de poursuivre leur rééducation en dehors des séances de traitement chiropratique. Mais encore plus efficace que la glace ou la chaleur, c'est de vous abonner au balado et de nous mettre une note de 5 étoiles et de mettre le balado en sauvegarde pour ne pas manquer tous les futurs épisodes dans le futur. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.